Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Intégral Sport sur RMC, le temple du talk, du débat, du live à la radio. Votre rendez-vous chaque week-end pour faire le tour de l'actualité sportive partout où elle s'écrit. On est ensemble en direct jusqu'à 16h avec du rugby, du foot, du basket, du quintet et du tennis. Le tout en compagnie de Richard Poole-Jones, notre phlegmatique consultant de la Dream Team RMC. Hello Richard.
Hello Simon.
Comment ça va?
Bah, très bien, pas besoin de vendre le match ce soir.
Non.
Ça se vend tout ça, c'est le match de l'année.
On va en parler évidemment longuement d'ici 15h. On va retrouver dans un instant nos spécialistes de la rédaction rugby. Un gros programme évidemment, mais priorité au direct. Vous en avez l'habitude sur RMC, on va filer tout de suite dans le chaudron. Alors pas Saint-Etienne, ça c'est pour tout à l'heure, mais celui du Portel où l'équipe de France affronte les Pays-Bas en barrage de la Billie Jean King Cup sous les yeux d'Anthony Reich. Salut Anthony.
Salut Simon, bonjour à tous.
Anthony, les simples du jour ont débuté et Caroline Garcia est sur le court. Où en est notre numéro 1 française?
Eh bien, ça se passe pas trop mal pour Caroline Garcia. 22 minutes de jeu et la française, la quatrième joueuse mondiale, mène 3 jeux à 2. Elle met beaucoup de pression sur le service justement de son adversaire néerlandaise, Leslie Patinama Kharkov, une joueuse très modeste, hein, 207e mondiale et 15-30 sur le service de la néerlandaise. Donc, on voit déjà le jeu de Caroline Garcia que l'on a pu admirer lors de sa victoire au Masters en début de semaine. Un jeu ultra offensif, ultra spectaculaire, et évidemment elle a reçu une immense, immense ovation lors de la présentation par le speaker. Tout le public du Portel l'attendait hier lors des deux premiers simples remportés par l'équipe de France. On le rappelle, les Bleus qui mènent 2-0, mais c'est aujourd'hui la grande fête pour Caroline Garcia qui mène 3 jeux à 2 dans ce premier set.
Anthony Reich au Portel pour suivre les barrages de la Billie Jean King Cup France-Pays-Bas. Caroline Garcia sur le court, évidemment on revient régulièrement vers toi pour faire un point sur le score du match de notre numéro 1 française. Mais vous le savez, c'est l'événement sport du week-end en France. France-Afrique du Sud, deuxième match de la tournée d'automne du 15 de France. C'est ce soir 21h sur la pelouse du Vélodrome à Marseille et en intégralité évidemment sur l'antenne de RMC. On va se projeter sur ce qui attend nos Bleus face aux champions du monde Springboks avec le boss du service rugby de la rédaction RMC Sport, Jeff Paturo. Salut Jean-François.
Salut Simon. Bonjour Richard.
Hello Jeff.
Jean-François, on parle de match de l'année. Certains se demandent si c'est le match le plus important avant la Coupe du Monde. Ce qu'on peut dire, c'est que ces Sud-Africains, bah, le 15 de France version Galtier, ne les a encore jamais battus.
Il faut dire qu'ils les ont jamais joués aussi. Hein, Simon, voilà. Peut-être, ça ne s'arrête pas pour
encore
les battre.
Encore tu gâches mon effet. Oh, sympa,
ça. C'est bon. Bah, allez, bonne journée. C'est vrai que c'est un macro match pour cette équipe de France qui l'attend depuis des mois, voire des années, cette confrontation face à l'Afrique du Sud. C'est une marche de plus dans la construction de cette équipe en vue de la Coupe du Monde. Ce sera dans 10 mois. Et le discours du staff est clair depuis quelques semaines. Ils avaient déjà commencé à bosser ce match dès le début du rassemblement, avant même le match contre les Wallabies. Le discours est simple, puisque après le premier match du mandat de Fabien Galthié en 2020, après la victoire contre la Nouvelle-Zélande l'année dernière au Stade de France, aujourd'hui c'est une marche de plus très intéressante, très importante pour ces Bleus, après avoir battu à peu près tous leurs adversaires ces derniers mois, que ce soit l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Australie, j'en passe. Aujourd'hui ce sera une première contre l'Afrique du Sud, une équipe sud-africaine qui ne réussit pas franchement aux Bleus depuis 2009, dernière victoire à Toulouse en 2009, depuis 7 défaites consécutives avec différents sélectionneurs. Aujourd'hui ce sera un vrai test, un vrai révélateur pour cette équipe de France. C'est ce que confirmait en conférence de presse Laurent Labitte, l'entraîneur des trois quarts cette semaine à Marcoussis.
Ce match, il compte déjà parce que c'est champion du monde et nous, on l'a dit depuis le début, on veut jouer avec les meilleurs. Et aujourd'hui, les meilleurs, en tout cas ceux qui ont le titre de champion du monde, ce sont eux. Ensuite, après, parce qu'on doit continuer à se construire et à grandir. Et forcément, c'est un profil d'équipe qu'on n'a pas encore joué. Il est possible aussi qu'on recroise l'Afrique du Sud en quart de finale au mois d'octobre en 2023. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est important pour nous d'être au niveau samedi.
Richard Poole-Jones, notre consultant de la Dream Team, c'est important de rajouter le scalp de l'Afrique du Sud à la longue liste des équipes que le 15 de France version Galtier a déjà battu.
Alors, mes fils sont moitié sud-africains, donc je connais bien cette culture. Et je peux vous dire que pour les Sud-Africains, venir en France battre les Français chez eux, à Marseille, dans le couloir de Marseille aussi, c'est important pour eux déjà, psychologiquement, en vue de la Coupe du Monde l'année prochaine. Mais aussi pour les Français, s'ils peuvent marquer physiquement et gagner le match, quand ils vont affronter les Sud-Africains, s'ils affrontent les Sud-Africains en finale, par exemple, l'année prochaine,
ça s'arrive. Plutôt en quart.
En quart, excusez-moi. Merci, ouais, merci, ouais. Jeff. C'est pour ça que tu es le chef. Bravo.
Ouais, c'est pour ça que je t'écoute un peu. Ouais.
Mais effectivement, psychologiquement, c'est important pour des deux équipes.
Effectivement, d'autant que ils détiennent la la ceinture, hein, la ceinture mondiale. Hein, c'est eux qui détiennent le titre et ils savent qu'on regarde un petit peu dans leur armoire à trophées. Jeff, on connaît les forces évidemment de l'Afrique du Sud. La question, c'est est-ce qu'il faut s'adapter en termes de plan de jeu à ce que vont nous proposer les Springboks?
Ouais, je vais faire une réponse partagée, mitigée. Oui et non. Non, d'abord parce que le 15 de France est sûr de ses forces, de ses hommes aussi, de son équipe qui reste inchangée par rapport à la semaine dernière contre l'Australie. Cette victoire arrachée 30-29 grâce à un essai de Damien Penaud, inchangée donc avec notamment la présence de Jonathan Danty, le centre du stade Rochelet qui sera bien là, papa d'un petit Gabriel mercredi. Une charnière toujours Ntamack Dupont, 21e association depuis 2019 pour ce duo toulousain qui va égaler le record par Atrinduc. Je vais vous redonner une dernière fois la composition d'équipe, c'est important. Thomas Ramos à l'arrière, Penaud Moefana sur les ailes, Ficou Danty au centre, Ntamack Dupont pour la charnière, Olivon Aldridge Jolon, c'est du classique en troisième ligne, Flamand Wauki, on va en reparler, Antonio Marchand Bay. Et oui, l'équipe de France, le staff a choisi un petit peu de s'adapter à la puissance des champions du monde parce que ça va être une boucherie aujourd'hui, ce sera peut-être pas un match de poète au stade Vélodrome. C'est pour ça qu'il y aura 6 avants sur le banc et seulement 2-3 quarts. Et parmi ces 6 avants, il y a deux nouveaux, Reda Ouardi, le pilier du stade Rochelet, qui a raté le début de la tournée pour un carton rouge contre le stade Toulouse, et Bastien Chaluro, un deuxième ligne de 30 ans qui joue à Montpellier numéro 5, très très solide physiquement. Ça donne une équipe assez dense, assez impressionnante aussi, pourquoi pas, pour rivaliser face à un engagement sud-africain. Et rassurez-vous, encore une fois, Fabien Galthié a tout prévu. On l'écoute.
Nous avons assez d'options en fait dans notre composition de 5 de devant, troisième ligne et aussi finisseur pour normalement répondre à toutes les problématiques que nous allons avoir et surtout imposer des problématiques à l'adversaire. Samedi, c'est nous qui allons tirer les premiers. Et donc, nous avons essayé de constituer une équipe qui puisse garder la main, garder la pression sur l'adversaire. Après avoir passé du temps à réfléchir avec le staff et les joueurs, nous considérons que c'est cette formule qui sera la plus efficace, sans savoir évidemment le scénario. Même si nous avons en tête des scénarios, nous avons une volonté très forte d'imposer notre jeu. En face, nous avons les champions du monde.
Richard, tu voulais réagir. Est-ce qu'il faut s'adapter ou ouais, garder son identité?
Ouais, mais c'est, on l'a dit, c'est Jeff le chef, mais je vais oser à le challenger. Je pense, Jeff, justement, s'il n'y a pas d'adaptation de jeu, de plan de jeu, de la France, si on rentre dans un jeu, les Français rentrent dans un jeu de guerre de tranchées, je suis pas sûr que ça gagne. Je pense que physiquement ils sont plus impressionnants que vous, même si vous êtes très solidaires défensivement. Je pense que si Galthié ne met pas en place un plan de jeu avec justement une disposition en exploitant les espaces dans le troisième rideau, ça va être l'Afrique du Sud qui gagne à la fin. Même si la semaine dernière ils n'étaient pas le plus efficace que j'ai jamais vu contre les Irlandais, je pense que ce match-là, ils l'ont marqué, et puis physiquement, ils vont être plus présents que tout. Il ne faut pas les affronter sur la France.
Justement, Jeff, on a une petite quand même indication dans la compo choisie par le staff tricolore. On entendait Fabien Galthié à l'instant rappeler, comme d'habitude, on le sait désormais, l'importance de ce qui s'appelle les finishers, hein, ceux qui terminent la rencontre.
Ouais. Des remplaçants, on va appeler ça en français. Hein.
Voilà, exactement, exactement. Tu fais bien de franciser un petit peu notre débat. Justement, à ce titre, la deuxième ligne alignée ce soir par Fabien Galthié et le staff tricolore sera observée de près parce que elle est peut-être un petit peu moins lourde, moins puissante que ce qu'on aurait pu vouloir opposer aux Sud-Africains.
Ouais, effectivement, ça t'a déjà posé la question la semaine dernière contre les Wallabies, puisque le duo, encore une fois, ce soir, ce sera Thibaut Flamand, le numéro 5 ou 4 du stade Toulousain, qui sera aligné ce soir en 5, et Cameron Wauki à ses côtés. C'était le cas la semaine dernière. Flamand en 5, on se demandait s'il allait être un peu léger contre les Wallabies, contre l'Australie, et on se pose encore la question. Il sera derrière Willy Antonio, c'est 145 kilos, et Wauki, lui, doit élever son niveau, parce que la semaine dernière, Flamand était plutôt intéressant, plutôt bon dans le jeu, dans le combat, alors que Cameron Wauki a un petit peu souffert, moins étincelant peut-être que les mois derniers, un peu dans la lignée de ce qu'il propose avec le Racing 92 depuis le début de saison et le départ de ton club favori, l'Union Bordeaux-Bègles, Simon. Mais c'est vrai que ce sera un vrai test pour les deux, face notamment à Eben Etsebes et Franco Moster. Et là, ça va être un énorme combat pour les deux. Ouais.
Un peu terrifiant. Avant de te donner la parole, Richard, petit détour par le portel, le chaudron du portel, Anthony Reich. Première manche pour l'équipe de France.
Ouais, ça s'est drôlement accéléré justement dans cette première manche. Premier set, Caroline Garcia entrée, 31 minutes de jeu, 6 jeux à 2. en faveur de la 4e mondiale qui a conclu ce set sur une de ses spéciales désormais, un retour gagnant avec une avancée très forte, très offensive sur la 2e balle de service de son adversaire néerlandaise. Les Françaises ne sont plus qu'à un set du maintien dans l'élite mondiale si Caroline Garcia remporte cette rencontre. Ça fera 3-0 pour les Bleus.
Rendez-vous, c'est tout ce qu'on espère et tout ce qu'on souhaite à l'équipe de France. Rendez-vous tout à l'heure, Anthony, du côté du Portel. Richard, je te redonne la parole. On parlait de cette deuxième ligne, Woki flamand, qui
contre
les monstres sud-africains. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du choix du staff?
J'ai mis Woki dans l'équipe, parce que même s'il part au sommet au niveau, dans les airs, Royal, il va le retrouver aussi, la logique de jouer les titulaires, etc. Ça a du sens. Mais les journalistes sportifs adorent faire les face-à-face. Donc là, on dit, ouais, ils sont plus légers, la deuxième ligne française. Mais en fait, en réalité, c'est pas ça. Bien sûr, on touche. Mais les balles emportées, c'est 8 contre 8. C'est pas un deuxième ligne contre un deuxième ligne. Et c'est l'organisation surtout. Donc bien sûr, on sait que les Bocs, ils vont emporter les ballons. Après, j'attends ceux qui ont bien bossé cette semaine, les Français, pour l'organisation défensive par rapport à ça. Et surtout, j'attends les Français qui déplacent le jeu.
Et réponse à partir de 21h, France-Australie, deuxième match de la tournée d'automne du 15 de France. À suivre évidemment en direct, en intégralité sur RMC. Jeff, ça se passe du côté de Marseille et du Vélodrome. Entre le 15 de France et le Vélodrome, c'est une belle histoire, hein, belle histoire d'amour.
Ouais, effectivement, c'est une belle histoire d'amour entre les deux parties, entre le Stade Vélodrome de Marseille et le 15 de France. Le dernier match ici au Vélodrome, c'était le 23 février 2018. Ça paraît assez loin comme ça. C'était contre l'Italie dans le tournoi Destination. Les Bleus étaient alors entraînés par Jacques Brunel. Depuis 2000, il y a eu 12 matchs ici à Marseille, 10 victoires, seulement 2 défaites. C'est certaines victoires de prestige. Fabien Galthié, par exemple, quand il était joueur, a gagné de gros matchs face justement à l'Australie ou l'Afrique du Sud. 83% de victoires au Stade Vélodrome de Marseille pour cette équipe de France. Évidemment, aujourd'hui ce sera plein, 67 000 spectateurs attendus, les conditions parfaites, il fait beau, il fait bon, tout est réuni pour assister à un gros match. Il y a un peu d'excitation puisque certains joueurs n'ont pas franchement l'habitude de jouer ici, et on a posé la question à tout le monde, y compris Thibaut Flamand, le deuxième ligne du Stade Toulousain. Écoutez ce qu'il dit sur ce stade pas comme les autres.
On sait que c'est un public qui se manifeste beaucoup au foot. Après voilà, là on sait que c'est une culture qui dans cette région de la France qui aime mettre l'ambiance dans les stades. Donc on s'attend vraiment à ça sur le match. Et c'est vrai que nous ça nous aide sur les moments difficiles. Dans les 10 dernières minutes, ça peut aussi faire la différence. Donc on adore partager ça avec eux et on sent que ça nous pousse.
Et beaucoup de joueurs du 15 de France qui ont eu l'occasion de disputer des matchs au Vélodrome en parlent avec émotion et disent que c'est vraiment effectivement quelque chose de grandiose. Deux questions en une. T'as déjà joué une rencontre au Vélodrome, Richard?
Non, mais je vais assister à un match. J'ai assisté à un match où la France jouait contre la Nouvelle-Zélande. Il y avait 6 joueurs de paquet d'avant du Stade français qui étaient présents. J'avais envie de franchir et puis aller les rejoindre. En plus, ils ont battu les Blacks alors que c'était une grande équipe des Blacks.
C'est sûr que c'est un peu moins, Richard. Incroyable. Pardon. Il y en a un peu moins maintenant du Stade français.
Oui, c'est ça. Oui, pour l'instant, mais on a les bros. Ça va revenir.
Il y a Sekou Makalou sur le banc.
Ça attaque en direct dans l'intégrale.
Ça va revenir.
Un stade fétiche, en revanche, ou dans lequel tu as évolué, où il y avait une ambiance qui te plaisait, à part
Jean-Marc? Mais j'ai adoré. J'ai joué 2 finales là, mais perdu au Parc des Princes. Mais c'est une enceinte magique.
Ah, l'acoustique du Parc des Princes, ça rappelle des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Merci beaucoup, Jeff Paturo, du côté du Vélodrome. Bon match, on va se régaler sur RMC. Et à très vite, évidemment, on te retrouve très rapidement sur l'antenne. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport en compagnie de Richard Pouljones revient dans un instant. On est en direct jusqu'à 16h. Et dans un instant, on va juste changer de côté de terrain et se projeter chez nos amis Springboks. On va se demander s'ils sont si redoutables que ça, nos amis sud-africains, ou si au contraire, on ne les sous-estime pas un petit peu. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant.
RMC, Intégral Sport,
Simon Dutin.
À 14h24, vous êtes bien sûr à RMC, la suite de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 16h en compagnie pour l'instant de Richard Pouljones, notre phlegmatique consultant de la Dream Team RMC. Grosse page rugby ici 15h, France-Australie, le deuxième match de la tournée d'automne du 15 de France. On en parle avec nos spécialistes de la rédaction rugby. On se penche sur cette équipe des Springboks dans un instant. Mais avant ça, petit détour vers par le Portel, le tennis, le maintien en Billie Jean King Cup qui est bien engagé, Anthony Reich, pour l'équipe de France face aux Pays-Bas.
Oui, tout à fait, Simon. Un 7-0 en faveur de Caroline Garcia dans cette troisième rencontre de ce barrage face aux Pays-Bas. Les Bleus qui mènent 2-0 dans la totalité des matchs avec les victoires d'Alizé Cornelière et de Diane Paris. Caroline Garcia qui met la pression d'entrée de deuxième set. Elle mène 1-0 face à son adversaire néerlandaise, Patty Nama Kharkov. Elle a sauvé deux balles de break, la néerlandaise. Elle essaye de rester en vie dans cette rencontre. Un 7-0, un jeu à 0 en faveur de Caroline Garcia.
On te retrouve évidemment pour faire un point régulier sur cette rencontre entre la France et les Pays-Bas avec la numéro 1 française Caroline Garcia. Enfin, sur le court, on reparle rugby, toujours en compagnie de Richard Poulton-Jones. France-Australie ce soir à 21h. Ces week-ends, ces périodes de tests internationaux. Hein, je vous signale qu'en ce moment, le 15 d'Italie mène un petit peu la surprise générale. 10-3 à la maison face à l'Australie.
Et en train de marquer en plus,
ça fait 15 à l'instant avec Capuzzo, le Toulousain. Qui va à Dame, incroyable ces jeunes Italiens.
Peut-être que les Australiens sont moins forts que vous me disiez la semaine dernière.
Voilà, ça attaque tout de suite. L'Irlande affronte en ce moment les Fidji, le reste du programme international, Angleterre, Japon, Pays de Galles, Argentine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce France-Afrique du Sud, l'événement évidemment. Les Springboks dont on sait finalement peu de choses, si ce n'est qu'ils sont toujours aussi redoutables sur ce qui constitue finalement l'essence du rugby, la conquête, le défi physique. N'en fait-on pas pour autant un peu trop avec cette équipe sud-africaine ? Au contraire, ne la sous-estimons pas un peu. On va tenter d'y voir plus clair avec toi, Richard, et puis avec Wilfried Templier qui sera au commentaire de la rencontre ce soir sur RMC. Avec
toujours tranchant, Wilfried.
Et jamais le dernier, jamais le dernier surtout. Salut Wilfried.
Facile. Salut Simon, salut Richard. J'ai une pensée pour Richard, une pensée sincère après la défaite des Anglaises en finale de Coupe du Monde ce matin face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. Voilà, ça sert à rien de battre la France en demi-finale pour aller perdre en finale. Mais bon,
ils ont joué à 14.
J'ai une pensée pour toi.
Ils ont choisi de jouer à 14.
Il fallait pas jouer à 14 aussi. Donc, mais j'ai une pensée pour toi. Tu dois être samedi triste pour toi.
Moi, je vais féliciter les Françaises qui ont gagné le match contre le Canada pour gagner 36-0 et rester sur le podium.
Tu veux chauffer à dire que l'Australie est pas si forte finalement.
Tu vois la différence entre nous.
Il faut rien laisser aux avancées.
Tu vois la différence, la classe.
J'apprends du maître Wilfried, évidemment. Les Françaises qui ont battu le Canada 36-0 ce matin à Auckland et qui terminent troisième de cette Coupe du Monde. Exactement, qui ont fait une belle Coupe du Monde. On fera le bilan tout à l'heure avec Gauthier Baudin, notre envoyé spécial sur place. Mais pour l'instant, Wilfried, ce France Springboks, 13 ans qu'on n'a plus battu les Springboks, c'est long. J'allais dire comment ça se fait. Jeff m'a clashé un petit peu tout à l'heure en me disant c'est normal, en tout cas le 15 de France version Galtier n'a jamais affronté cette équipe d'Afrique du Sud. Néanmoins, on reste sur 7 défaites d'affilée contre eux.
Ah ouais, ça commence à faire long, à remonter évidemment. 2009, ça paraît très très loin. C'était un match terrible, c'était à Toulouse, un match terrible d'engagement. Moi j'y étais, je me souviens des visages marqués des box quand ils sont sortis du match, nez, arcade, front. Ça avait été une bataille rangée au Stadium de Toulouse. Mais depuis, soupe à la grimace pour les Français face à l'Afrique du Sud. Le dernier en date en 2018 au Stade de France où ils nous battent de 3 points, mais ils marquent à la 83e. On était dans leur 22 mètres dans les dernières minute, on prend une pénalité alors qu'on attaquait à 5 mètres de leur ligne à la sortie d'une mêlée. Ils ont remonté tout le terrain, ils ont marqué un essai terrible par Mbonambi, le talonneur qui était déjà là, qui jouera ce soir. D'ailleurs 13 des 23 Springboks qui nous ont battus en 2018 étaient déjà là, alors qu'il reste que 3 joueurs de notre côté, Dupont, Penaud et Ficou.
C'est notre équipe de France maintenant.
Ah, ça a rien à voir évidemment. Tu vois, il en reste que 3 donc il y en a 20 qui sont plus là. Il y a eu un grand changement en équipe de France, mais c'est vrai que de ces dernières années, même en général, c'est le 45e France Afrique du Sud en 44 matchs, on a gagné que 11 fois. Et sur notre sol, on a 5 victoires et 14 défaites. Donc c'est pour vous dire quand même le c'est pas bête noire, mais pas loin certainement l'Afrique du Sud pour l'équipe de France. Et puis tu en parlais un peu, Simon, et Richard le sait, c'est quand même une culture. Enfin c'est deux équipes qui se ressemblent, j'ai envie de dire, un petit peu miroir ce soir, dans la pression des avants, dans le jeu au sol, dans la défense, et puis l'engagement culturel des Sudaf, je cherchais un peu les deuxièmes lignes, là, pour les plus anciens. Tu parlais des plus anciens, Simon, les Cobus Viseux, les Bakis Botha, maintenant les Edstebet. Je vois le sourire de Richard, quand il pense à ça, ces grands combattants. et ça va être ça ce soir. On va écouter le capitaine Sia Colissi, qu'on a rencontré cette semaine, à Marseille, sur le parler du côté physique de ce match, de cette rencontre et leur côté culturel. Et voilà, ce soir, ce sera physique. Il l'a dit cette semaine, Sia Colissi.
Ça va être physique pour les deux équipes. Ils savent en quoi ils sont bons en tant qu'équipe et ils le font très bien. Ils connaissent leur plan de jeu et ils ne s'en éloignent jamais et ils sont capables de l'imposer aux autres équipes. C'est ce que nous avons dû travailler cette semaine et on va essayer de les rencontrer là-dessus. On est aussi une équipe physique, donc ça va être un bon test entre notre tactique et leur tactique, mais je pense que ça va être à qui on veut le plus.
Alors, c'est simple au rugby, hein.
Oui, c'est pas compliqué, effectivement. Pour rebondir sur ce que tu disais, Wilfried, avant de donner la parole à Richard, je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'extrait, là, d'un papier de chez nos copains du Midi Olympique, hein, d'hier, qui cite Tom Lyons, un supporter des Lions britanniques, et alors en tournée en Afrique du Sud, qui racontait, nous dit le Middle, à son épouse Suzanne dans une lettre postée le 11 juillet 1954. C'est comme si nous avions débarqué dans un autre monde, mon aimé. Ces paysans bourses sont tellement rugueux que je jurerais qu'ils travaillent leur défense en plaquant des buffles. Les Springboks jouent au rugby comme on fait la guerre. Ouais. Est-ce que ces clichés ont disparu, mon cher Richard, ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu justement la recette éternelle du rugby sud-africain, le défi physique, impressionner l'adversaire, faire mal à l'adversaire.
Mais c'est le minimum syndical, poser la question à un sud-africain, il ne comprend même pas la question. Mais pour lui, c'est évident que le rugby, ça commence avec le combat, c'est physique, peu importe le poste, on parle de deuxième ligne, mais c'est pareil avec le centre, qui sont monstrueux. Le défi physique, vous l'avez pas, vous êtes poufteur, ils disent en Afrique du Sud. Vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes pas invité dans l'équipe.
Bon, ce soir, on est invité hein, du côté du Vélodrome, en tout cas, au moins au coup d'envoi à 21h, France-Afrique du Sud. Wilfried, cette équipe championne du monde en titre, on le disait, est-ce qu'elle a beaucoup changé depuis le sacre en 2019?
Il y a une ossature qui a été gardée quand même. Alors on va dire quand même que cette année, cette saison, les résultats sont un petit peu moins bons, hein. 7 victoires, 4 défaites, 2 en rugby championship contre la Nouvelle-Zélande et en Australie, et 2 aussi face au Pays de Galles chez eux et en Irlande la semaine dernière. Les Sud-Africains qui s'étaient aussi inclinés à Twickenham l'année dernière face à l'Angleterre. Donc ils ont longtemps été isolés, hein, après la Coupe du Monde avec le Covid. Bon, c'est toujours massif, c'est toujours bon, comme enfin un très haut niveau. Et surtout, je te disais, l'ossature des champions du monde, il y en a 18 hein, sur 23 ce soir qui sont champions du monde.
Il y a quand même une différence clé, un poste clé quand même, Wilfried, avec il manque Pollard en 10.
Mais... Oui, sauf qu'il y a un conducteur, un fil conducteur dans cette équipe, et on allait en parler dans cette émission, pardon, et on allait en parler derrière avec Simon. J'allais parler du problème du 10, mon cher Richard. Ah. Juste avant, je te dis juste que il y a les champions du monde qui sont là et ils ont fait ils ont fait revenir Faf de Clercq à la mêlée, qui était remplaçant la semaine dernière, Willy Leroux aussi à l'arrière. Il y a toujours hein, les Malherbe, les Mbonambi, on parlait deuxième ligne, Estebet Moster, Dutoix qui était meilleur joueur du monde en 2019, qui est un troisième ligne, qui est deuxième ligne, qui fait 2 mètres et 120 kilos, et qui joue en troisième ligne. Donc, voilà, il y a toujours les Colby, les centres d'Alien Descrit, voilà. Il y a du monde encore. Et on s'appuie sur cette ossature-là. Mais moi, j'ai eu une réflexion aussi en préparant ce match, c'est que, mais ça, c'est autre chose, mais c'est que c'est une équipe de trentenaires aussi, Richard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, ils auront certainement du souci après la Coupe du Monde 2023, contrairement à la France, qui a une équipe plus jeune et qui pourra se projeter sur 2027. Mais il y a que des trentenaires dans cette équipe. Donc c'est voilà, sur 2023, ça va être l'apogée encore voilà, après 2019.
C'est la même maturité que l'équipe d'Angleterre en 2003 en fait.
Exactement. Et c'est vrai avec beaucoup d'expérience, énormément d'expérience, et ce sera peut-être un problème pour ensuite. Mais bon, c'est vrai et on va enchaîner là-dessus puisque Richard nous a tendu la perche.
On en parlait ce matin dans les grandes gueules, Dutoix, Leroux et De Clercq ne jouaient pas la semaine dernière face à l'Irlande. Peut-être preuve que du côté sud-africain, c'est ce match face à l'équipe de France qu'on
a coché
le plus important dans cette tournée.
Il voulait voir des choses qu'on a coché. On a même laissé on n'en a pas parlé depuis le début de cette tournée, mais il y a un joueur qui a été laissé de côté et dont les sélectionneurs ont dit mais on sait ce qu'il vaut et il sera là pour la Coupe du Monde. C'est Douané Vermeulen, le troisième incendie, qui est énormissime aussi dans cette équipe et dont la puissance a peut-être un peu manqué ce soir. Mais bon, il y a un souci aussi, voilà, on y vient à l'ouverture, puisque tu l'as dit, c'était un énorme pack et surtout un grand buteur comme c'est depuis des décennies de l'Afrique du Sud, et c'est leur titre de champion du monde qui a été comme ça. Et je parle de cet énorme buteur, c'est Pollard, André Pollard, l'ancien joueur de Montpellier, qui est blessé. On a un deuxième ouvreur, Yantis, qui a eu un petit souci extra-sportif avec une membre du staff et qui a été éjectée de la sélection. Cela ne nous regarde pas. Et ensuite, on se retrouve donc avec Damien Willemse, qui est un ouvreur de formation, mais qui a plus souvent évolué à l'arrière et qui joue à l'ouverture. Il a joué la semaine dernière en Irlande, Willemse, mais il c'est pas un buteur. Où il a laissé sa place à Chestin Colby derrière, qu'on est même pas un en plus. Donc ils ont un... Richard, je sais pas ce que t'en penses, mais dans des matchs
Je pense que c'est une faiblesse. C'est la faiblesse de cette équipe, bien sûr.
Ouais.
Non mais c'est une évidence. Et surtout ça reste à être étriqué, tendu à la fin dans le money time. Si Colby il tremble devant les poteaux, ça serait pas étonnant.
C'est ça, Chelsea Combe qui prend les buts hein, ce soir à son compte, but, effectivement.
Ouais. Effectivement.
Et dont le jeu au pied, effectivement, l'efficacité sera évidemment scrutée. 21h, France-Australie, Wilfried Templier, Denis Charvet au commentaire. Vous n'en manquerez rien, évidemment, comme d'habitude sur RMC. Et cette victoire qui ferait du bien, hein, qui ferait du bien et qui lancerait un beau signal parce qu'elle compléterait le tableau de chasse de la bande à Galtier, comme on dit. Mon cher
pour une 12e victoire de suite.
Exactement, ce serait absolument prodigieux. Merci beaucoup Wilfried, on se retrouve évidemment régulièrement sur l'antenne de RMC.
Bon match
ce soir aux commentaires. Bon match à tous sur l'antenne de RMC. L'intégral sport va revenir dans un instant. Je passe au ballon rond instant pour vous dire que le groupe
T'as vu l'équipe d'Angleterre, on te met dans la trompette.
Oui, alors c'était pour vous parler du groupe emmené par Christophe Galtier, retenu par Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour la 15e journée de Ligue 1 PSG Auxerre à 13h demain. Le trio offensif est bien retenu par l'entraîneur parisien Messi, Mbappé, Neymar, qui sont dans le groupe parisien avant de disputer la dernière rencontre de club avant la trêve pour la Coupe du Monde. Seule absence à noter, Marquinhos, l'habituel capitaine qui est laissé au repos. Vous ne manquez aucune info, la Ligue 1, la Ligue 2, le rugby, le tennis et même le quintet. À tout à l'heure, c'est l'Intégral Sport sur RMC.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
À 14h39, la suite de l'Intégral Sport sur RMC, comme chaque week-end. Évidemment, cette journée qui va nous conduire vers l'événement du week-end France-Afrique du Sud, le deuxième match de la tournée d'automne des Bleus du 15 de France. Ce sera du côté du Vélodrome et vous n'en manquerez rien, évidemment, sur l'antenne de RMC. On se projettera sur cette rencontre toute la journée sur l'antenne. Dans un instant, on va revenir sur la belle performance des filles du 15 de France, troisième de la Coupe du Monde. Ça s'est conclu ce matin du côté de Auckland pour les Bleus du 15 de France. C'est la Nouvelle-Zélande qui a battu l'Angleterre en finale pour la 7e fois de son histoire. Le 15 de France féminin termine à la 3e place. On en parle dans un instant avec notre envoyé spécial. Avant ça, petit détour par le direct, le portel, les barrages de la Billie Jean King Cup. France-Pays-Bas, Anthony Reich.
Et ça se passe bien pour Caroline Garcia, la quatrième joueuse mondiale vainqueur du Masters. Elle mène 6-2, 2-1 et elle a 3 balles de break sur le service de son adversaire.
Ben peut-être qu'on va en suivre une allée très rapidement, Anthony.
L'échange s'est engagé en fond de cours et tout de suite, Caroline Garcia qui essaye, mais ce coup droit, cette attaque de coup droit qui reste dans le filet. 15-40, on en reste à 2-1 dans ce deuxième set en faveur de Caroline Garcia.
Partie remise, espérons-le. Tu interviens évidemment régulièrement sur l'antenne pour nous donner des nouvelles du match de la numéro 1 française, le maintien qui est en bonne voie pour l'équipe de France. Mais je vous le disais, pour la 7e fois de son histoire, le 15 de France féminin termine à la 3e place de la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu, corrigé le Canada ce matin du côté d'Auckland, victoire 36-0 qui nous consolera un peu, espérons-le, après ce cruel dénouement de la demi-finale perdue d'un point le week-end dernier face aux Néo-Zélandaises. Elles ont remporté, je vous le disais ce matin, la finale face à l'Angleterre. Consolation, on ne sait pas, en tout cas soulagement pour Gabriel Vernier, la trois quarts centre du 15 de France.
C'est surtout le lâcher prise après toute cette compétition. 6 semaines, c'est long. Là, ça fait 4 mois qu'on se prépare pour cette compétition. C'est beaucoup de pression, beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Et ce coup de sifflet, ça a représenté la fin du match, cette belle médaille de bronze aussi. Mais je pense aussi, on peut souffler, savourer ce moment. Pas de match après. C'est vraiment être entre nous, savourer le moment et profiter de d'être ici, quoi. Voilà.
D'être ici pour quelques instants encore, puisque la Coupe du Monde est désormais terminée. Nouvelle-Zélande 1, Angleterre 2 et France 3. Donc, il a été les yeux, la voix, les oreilles de RMC durant toute la compétition au pays du long nuage blanc. Gauthier Baudin, envoyé spécial de la rédaction RMC Sport, est avec nous. On va faire avec lui le bilan, calmement. Salut Gauthier.
Bonjour Richard, bonjour Simon.
Oui, quand tu... Ça va mieux.
Ah bah oui, ça va mieux.
L'épaule va bien, Gauthier ?
Elle va très bien.
Bon, je vais pouvoir rafuter à nouveau dans les couloirs notre Gauthier Baudin. Gauthier, victoire autoritaire. Elle était attendue pour ce 15 de France pour conclure en beauté cette Coupe du Monde.
Ouais, alors au début ça semblait tout un match piège parce que ça semblait que le Canada semblait avoir beaucoup mieux basculé que nous après cette défaite vraiment horrible à un point près avec ce scénario. Et finalement, le Canada n'a pas montré tant de choses que ça et le 15 de France a simplement déroulé ses points forts, c'est-à-dire une défense intraitable. Les Canadiens ont marqué zéro point, ils sont allés une fois dans l'embut et ça n'a même pas fini en essai. Et en attaque, on a fait des choses vraiment tranquillement, vraiment facilement. Mais encore une fois, comme tu l'as dit Simon, c'était autoritaire et c'était une bonne façon de conclure cette Coupe du Monde et d'offrir une porte de sortie respectable à 4 joueuses qui arrêtaient leur carrière internationale.
Richard, l'équipe de France est passée proche d'un ce qui aurait été un immense exploit le week-end dernier.
Vous avez les victoires au bout du pied. C'est très dur à se relever de ça.
On se souvient effectivement de cette pénalité après la sirène totalement manquée. Le 15 de France féminin à sa place, troisième nation mondiale, on peut dire ça ?
Ah mais c'est sûr. Quand on voit pas uniquement ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais tout au long de la compétition, Gauthier, tu les as suivis. Et c'est une équipe d'avenir. Bon là ça change un peu, mais il y a les jeunes. Quand on voit la performance, par exemple, de la démêlée Pauline Bourdon ce matin, c'était exceptionnel. Et puis se relever mentalement après la déception de la semaine dernière, il faut les féliciter. Et puis le rugby féminin en général, Gauthier, tu en diras plus, mais en Angleterre, c'est l'engouement, même dans la défaite, en Nouvelle-Zélande aussi, le rugby féminin a pris une autre envolée après cette compète.
Ah ouais, c'est vrai que là, la Nouvelle-Zélande, on a vraiment découvert que le rugby féminin avait un vrai intérêt. Là aujourd'hui, le Eden Park était plein à craquer. Moi, je m'entendais même plus penser sur la moindre percée néo-zélandaise. Et c'est vrai qu'en Angleterre, on est un peu sur le même modèle que le foot féminin, c'est-à-dire qu'on est encore un peu en retard, mais on sait que pour la prochaine Coupe du Monde qui sera en Angleterre, on va s'attendre à des stades pleins parce que l'Angleterre sera l'équipe haute et aussi la plus attendue parce qu'aujourd'hui, ils ont pris quand même une sacrée déconvenue.
En tout cas, les Françaises, même si elles sont passées proches de l'exploit le week-end dernier face à la Nouvelle-Zélande, termine troisième, on le disait, c'est la septième fois dans l'histoire du 15 de France féminin. On a posé la question, on a tendu le micro du côté d'Auckland ce matin à Thomas Darak, le sélectionneur des Bleus, déçu, content. Oui, malgré la désillusion du week-end dernier, le bilan est évidemment positif.
Des moments difficiles, il y a eu des moments de grande satisfaction comme ce soir, comme le match d'Angleterre malgré la défaite, comme la prestation contre la Nouvelle-Zélande où la frustration était là parce qu'on a bien vu que ce groupe, comme on l'avait annoncé dès le départ, avait cette capacité de pouvoir aller jusqu'au bout. On ne le sera jamais parce que voilà, malheureusement il y a eu ce point d'écart la semaine dernière. C'est un bilan très positif par rapport à ce 15 de France féminin qui a montré voilà toute son ambition.
De son ambition et qui reviendra plus fort dans 4 ans en Angleterre, peut-être, mon cher Richard, la France championne du monde en Angleterre dans 4 ans, qu'est-ce que
bah, c'est possible, mais je pense que l'équipe d'Angleterre féminin aussi va progresser et puis les All Blacks, on sait qu'ils vont être présents, mais non, ce qui est bien, c'est vraiment la trajectoire du rugby féminin. Moi, je ne parle pas d'une fille et je suis ravi de voir le progrès de rugby féminin dans le monde à travers cette compète.
Formidable promotion, effectivement, qu'a été cette Coupe du Monde de rugby féminin. Avec du spectacle, des matchs accrochés, beaucoup de points,
beaucoup de technicité
effectivement. Et
le match, je reviens, j'ai déjà cité, mais le match de la demi-finale Pauline Bourdon, faut le montrer ça aux écoles de rugby avec son passé intérieur, Adouin son 10, la technicité est impressionnante.
Merci beaucoup Richard. Évidemment, on te retrouvera très rapidement sur l'antenne pour parler de rugby féminin et masculin et on espère qu'on battra les Anglais si souvent que ce sera possible.
Bah déjà occupez-vous des Springboks, ce soir ils vous attendent.
France-Afrique du Sud, c'est l'événement évidemment, le deuxième match de la tournée d'automne du 15 de France. Avant ça, je remercie Gauthier Baudin, merci beaucoup.
Merci
pour
Gauthier.
Cette couverture complète de cette belle Coupe du Monde du 15 de France féminin qui termine donc à la troisième place et bon retour chez nous, hein. Bon courage pour le décalage horaire et à très vite sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup. Gauthier. Merci Richard, à très vite également. Place au foot, hein, on transforme le ballon ovale en ballon rond, évidemment. On reparlera du match du 15 de France et de ce France-Afrique du Sud tout l'après-midi jusqu'à 21h. Mais pour l'instant, comme chaque week-end sur RMC, vous ne manquez rien de la Ligue 2, 15e journée. Elle débute dans un instant dans le chaudron de Saint-Etienne, cette fois le vrai, pourrait-on dire, où nous attend Édouard G, qui va nous commenter la rencontre des Verts face à Rodez. Salut Édouard.
Salut Simon. Édouard. Bonjour à tous.
Édouard, les Verts sont dans le rouge, hein, elle est facile, mais bon, victoire impérative pour les Stéphanois, inquiétant 19e au classement face à l'équipe qui les précède, bon, et qui a priori est à leur portée quand même cet après-midi.
Oui, bah, j'ai l'impression qu'on se répète depuis la première journée fin juillet, parce qu'ils sont dans la zone rouge depuis le début, parce qu'ils ont ces 3 points en moins qui les lestent donc et qui les clouent à la 19e place. Mais il n'y a pas que ça, parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de victoires, il n'y a pas beaucoup de bonnes prestations, il y a beaucoup de doute donc pour cette équipe qui est 19e, qui a la possibilité en gagnant cet après-midi, ce serait déjà au moins ça, de passer devant son hôte du jour, donc en l'occurrence Rodez. Donc ça, ce serait déjà une bonne opération, puis ça calmerait un petit peu tous les à côté autour de cette équipe et de ce club, surtout que l'on rentre dans 6 semaines de trêve et que ce soir c'est les vacances, hein, pour Saint-Etienne, parce que cette équipe a été éliminée en Coupe de France par Rodez, c'était il y a 15 jours ici même, au tir au but après un 0-0 insipide. Donc il va falloir partir en vacances avec l'esprit peut-être un petit peu plus léger. S'il pouvait y avoir 3 points de plus, eh bien évidemment que Laurent Batless, notamment l'entraîneur, eh bien serait soulagé.
Ah, du coup Edouard, y a-t-il des surprises dans la composition alignée par Laurent Batless pour cette rencontre?
Non, c'est l'équipe qui était prévue avec les absences notamment d'Anthony Briançon, donc ça nous donne Mathieu Dreyer dans les buts, une défense à 3 avec Mickaël Nadé, Jérémy Giraudon et Loïc Pétro, et puis Cafaro et Namri pour animer les flancs, les pistons qui sont les piston droit et gauche. Ensuite, en milieu récupérateur, Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, avec Victor Lebris qui est au soutien des deux attaquants, Wadji et Jean-Philippe Crasso, lui l'homme but d'une certaine manière, 12 buts et 6 passes décisives. Il est à l'origine donc de 18 réalisations de Saint-Etienne dans cet après-midi qui sera pas trop mal au niveau des spectateurs, 17 000 personnes annoncées, et à quelques jours, ça sera mercredi, d'un grand procès ici, parce que quelques semaines après, quelques 5 mois après, on va faire le procès de tout ce qui s'est passé le 27 mai dernier, ici, le 29 mai dernier, ici même, dans ce barrage retour funeste face à Auxerre. Je dis funeste, pas forcément pour le résultat, non, mais pour tout ce qu'il y avait, bien évidemment, malheureusement, autour, ces 27 supporters qui ont fait des dégâts. 16 d'entre eux seront poursuivis donc dans une journée qui va être très médiatisée mercredi, pour peut-être aussi envoyer un message.
Ça sera évidemment lorsque on rangera un petit peu le ballon au placard le temps de la Coupe du Monde. Tu rappelles que Saint-Etienne est éliminé de la Coupe de France, elle a donc des raisons de se méfier de cette équipe de Rodez qu'on connaît très peu mais qui va pas très bien non plus en championnat, hein, Edouard.
Ah non, c'est juste l'équipe qui est devant, ça, hein, 18e, qui a déjà fait une révolution de palais. Exit Laurent Perlade, et puis bonjour à son adjoint, au moins pour ce match, Aymeric Dardelet, qui va donc le suppléer et être sur le banc de touche pour cette équipe, donc qui elle aussi a besoin de points, qui s'est donné un petit peu d'air avec la Coupe de France, mais fatalement pour l'équipe de Rodez, la survie passe là aussi par au moins un bon résultat ici même. Alors là, on parle pas forcément de victoire, mais au moins déjà un match nul pour confirmer un petit peu cette place. Au moins, ça laisserait Saint-Etienne derrière, et ça, c'est pas forcément anecdotique cette année.
Et rendez-vous pour un début de réponse à 15h avec toi pour le coup d'envoi de ce Saint-Etienne-Rodez, l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2 sur RMC. Comme d'habitude, évidemment, vous avez rendez-vous à 19h avec l'intégral foot Ligue 2 autour de Benoît Boutron, et une fois n'est pas coutume, 9 rencontres en multiplex. Coupe du Monde oblige, pas de match de clôture lundi soir. Avant de se quitter quelques instants, petit détour par l'autre chaudron, celui du Portel, les barrages de la Billie Jean King Cup. La France face aux Pays-Bas, Anthony Reich.
Ouais, tu maîtrises bien la prononciation,
oui,
Simon.
Oui, hein. T'as vu, ça s'entend.
1h07 de jeu ici au Portel. Et ça se passe bien pour Caroline Garcia, la Française qui a fait le break dans la deuxième manche. Elle mène 4 jeux à 1 après avoir pris le premier set, 6 jeux à 2 face à la Néerlandaise Leslie Patinama-Kharkov. modeste de 107e joueuse mondiale. Et on voit bien quand même, même si elle domine parfaitement ce match, Caroline Garcia, qu'il y a de la fatigue. Elle s'étire beaucoup après son titre au Masters en début de semaine. Il y a eu de la fatigue de la compétition, le décalage horaire, le retour en France. Elle s'est arrivée tardive avec les Bleus, mais elle est là, elle est présente, elle communie avec le public. 6-2, 4-1 pour Caroline Garcia dans cette rencontre. Les Bleus qui sont tout proches du maintien dans l'élite mondiale.
Et rendez-vous, espérons-le, dans quelques instants pour l'officialisation du maintien de l'équipe de France en Billie Jean King Cup. Avec toi, Anthony Reich, du côté du Portel. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant à 15h. Le coup d'envoi en direct sur RMC de Saint-Étienne-Rodez, l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
À 15h02, c'est le retour de l'Intégral Sport sur RMC. On est ensemble en direct jusqu'à 16h. On va filer tout de suite du côté de Saint-Étienne. Geoffroy Guichard, Edouard G. Le coup d'envoi a été donné pile à l'heure entre Saint-Étienne et Rodez. C'est l'ouverture de la 15e journée Ligue 2.
Et 2 minutes 20 secondes de jeu et toujours 0-0 avec un spécifique corner pour Rodez. Puisqu'imaginez-vous, il y a eu un premier corner dès la 17e seconde. Et depuis 2 minutes 20, eh bien, les corners s'enchaînent. Alors, il n'y en a aucun au final dangereux. Hein, donc, pour les Aveyronnais, mais finalement, allez, on va avoir un 6 mètres. Drôle de départ dans cette partie avec donc le coup d'envoi donné par Rodez qui a obtenu dans les secondes qui ont suivi un premier corner. Il y en a eu 4 de suite, mais aucun n'a été précis et aucun n'a été au final dangereux pour Mathieu Dreyer dans une très très bonne ambiance. Près de 20 000 personnes ici et pour l'instant, il y a beaucoup beaucoup de chants. Il y a eu quelques banderoles également, mais pour tout le reste, tout va bien. Donc 0-0, 3 minutes de jeu.
Edouard Guizet, Saint-Etienne 19e avant cette rencontre face à Rodez 18e, l'équipe qui précède les Verts au classement. La composition alignée par Laurent Batles
avec Mathieu Dreyer donc dans les buts, Nadé, Giraudon, Petro pour la défense à 3 avec des pistons à gauche, Mathieu Cafaro et Amnas Namri sont pendant à droite, au milieu récupérateur Benjamin Bouchouari et Louis Mouton avec Victor Lebris en soutien des deux attaquants Jean-Philippe Crasso et Wadji.
Ah, la 15e journée de Ligue 2 à suivre évidemment en intégralité comme chaque week-end sur l'antenne de RMC à partir de 19h. Rendez-vous dans l'intégral foot Ligue 2 autour de Benoît Boutron pour suivre 9 rencontres. 9, j'ai bien dit 9 rencontres en multiplex puisque trêve de Coupe du Monde oblige qui approche pas de rencontre de clôture de Ligue 2 ce lundi soir. On retrouve Edouard Géo au Chaudron dans un instant, mais avant ça, petit détour par l'autre Chaudron, celui du Portel. Retrouver Anthony Reich pour la fin, espérons-le, du barrage entre la France et les Pays-Bas. C'est la Billie Jean King Cup.
Ouais, 6-2-5-3 pour Caroline Garcia. Elle sert justement pour le gain de cette rencontre, mais elle doit défendre 3 balles de break. Elle en a sauvé une première. On sent quand même qu'il y a beaucoup de fatigue de la part de la 4e joueuse mondiale qui n'arrête pas de s'étirer avec ce retour de Dallas après ce titre au Masters lundi. Elle sert en tout cas pour le match. 15-40 sur son service. Il reste encore 2 balles de break à sauver pour Caroline Garcia dans ce jeu de service.
Ben on peut en suivre une en ta compagnie en direct sur RMC.
Allez, c'est parti. Ça sera une deuxième balle de service bien kickée sur le revers de un bon retour de la néerlandaise. Derrière, elle est prise un petit peu sur son coup droit, Caroline Garcia, et elle arrive en bout de course à envoyer un magnifique coup droit long ligne. Une deuxième balle de break sauvée, 30-40 sur le service de la Lyonnaise qui mène 6-2-5-3.
On te retrouve dans un instant, Anthony, tu nous fais signe évidemment si ça se termine. Et d'ici là, on retourne à Saint-Etienne. Geoffroy Guichard, Edouard G, Saint-Etienne Rodez, l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2.
5 minutes de jeu, pas de but, mais après la série de corners pour Rodez, une série peut-être d'actions. Non, finalement, ce centre de Léo Petro qui va directement dans les bras de Lionel Mpazi, le gardien de but de Rodez. Ça va un petit peu mieux dans l'organisation après être acculé près de 3 minutes avec cette série de corners d'entrée, aucun n'a été dangereux et du coup du côté des Stéphanois on a pu quand même se mettre dans le bon sens de la marche et on est plutôt à peu près bien organisé pour l'instant. Il y a au niveau de la technique parfois d'entrée on voit dans les premières secondes que ça ne va pas pour les hommes de Laurent Batles, et bien là on sent que la technique est un petit peu plus sûre. Peut-être sont-ils ils sont sûrement sous la menace de cette 19e place pour le moment et cette obligation de gagner, mais l'atmosphère l'atmosphère, elle est vraiment géniale ici cet après-midi, même s'il fait froid, mais novembre est là. Donc il faut bien qu'il y ait un petit peu de froid, mais pour réchauffer un petit peu tout le monde, il y a les supporters qui pour l'instant font vraiment leur action de 12e homme et qui encouragent les Stéphanois. Et ça se passe bien pour le moment. Ils ont résisté d'entrée à Rodez et pour l'instant il y a 0-0 au bout de 6 minutes de jeu.
Saint-Étienne Rodez, on revient dans un instant. Philo Portel, retrouvé Anthony Reich, balle de match pour Caroline Garcia.
Ouais, c'est sur son service, c'est un premier service bien frappé sur le T, c'est service gagnant, Caroline Garcia qui s'impose, c'est fait, 6-2, 6-3 face à la néerlandaise Lesley Patani-Makarkov. Le job est bien fait pour la quatrième mondiale, vainqueur du Masters. Elle remporte le dernier point qui permet à l'équipe de France de Billie Jean King Cup de se maintenir dans l'élite mondiale. Victoire 3-0 des Bleus. Et évidemment Caroline Garcia qui célèbre avec le public français, avec sa magnifique célébration des bras déployés à travers le court. Elle communie enfin avec le public français, elle qui a remporté le Masters lundi dernier et qui a tenu à rejoindre l'équipe de France pour maintenir les Bleus dans l'élite mondiale. C'est fait, les Bleus joueront la première division la saison prochaine.
Et le public du Portel, présent en nombre, qui célèbre ce maintien dans l'élite de la Billie Jean King Cup, qui a eu droit à l'avion, la marque de fabrique, le Air Garcia, sur le court pour célébrer la victoire. Ça aurait fait un petit peu tâche quand même qu'on soit relégué alors qu'on a une Française qui vient de remporter le Masters. Anthony, c'est quoi la suite du coup pour les spectateurs notamment? On sait qu'il y avait un autre simple et un double prévu. Et vont-ils tout de même avoir lieu, même si le match est joué?
Il y aura un match de jouer, pas deux. Il y a une obligation de deux matchs joués en cas de qualification au bout du premier simple samedi. Donc le public aura le droit à un deuxième match, a priori un match de double tout à l'heure, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis une dernière communion avec les joueuses de l'équipe de France, qui auront le droit à des vacances bien méritées puisque c'est la fin de saison pour les joueuses sur le circuit, avant de reprendre le chemin de l'entraînement et la préparation pour l'Open d'Australie, où évidemment Caroline Garcia fera figure de favorite pour le titre en janvier 2023.
Et oui, on attend la Française, pourquoi pas dans le dernier carré. Mais c'est vrai qu'on est devenu gourmand après ces belles performances du côté du Texas et sa victoire au Masters. Merci beaucoup Anthony Reich du côté du Portel, qui nous a fait suivre le maintien, c'est désormais officiel, dans l'élite de la Billie Jean King Cup, j'arrive à le dire en m'appliquant un petit peu, de cette équipe de France emmenée ce samedi par Caroline Garcia. Dans un instant dans l'Intégral Sport, retour du côté de Saint-Etienne, c'est l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2. Saint-Etienne Rodez toujours 0-0, mais à 17h coup d'envoi de la 15e journée de Ligue 1, cette fois la dernière, là aussi avant la Coupe du Monde. Deux rencontres à suivre sur l'antenne de RMC comme chaque samedi. Ça débutera avec Lens Clermont du côté du stade Félix Bollaert, avec Aurélien Tercien et Jean Baumel au commentaire. Salut Djibo.
Salut Simon, bonjour à toutes et à tous.
Jean Baumel, Lens, dauphin du Paris Saint-Germain, qui veut évidemment poursuivre sa belle série avant cette coupure Coupe du Monde.
Ah, exactement. En plus, il n'y a qu'une seule défaite depuis le début de saison. C'était contre le voisin lillois lors du derby. Donc tu vois, c'est quand même un début de saison exceptionnel. Le plus beau d'ailleurs, le meilleur depuis l'existence du club lensois. C'est tout simple, c'est pas compliqué. 15e match à guichet fermé consécutif. T'imagines un peu ce que ça fait d'essayer de trouver une place. 38 223 billets qui sont vendus tous les 15 jours ici dans le Pas-de-Calais. C'est pas évident. Et tu l'as dit, deuxième du championnat. Quoi qu'il arrive, avant de s'arrêter le championnat, les Lensois seront toujours deuxième, quoi qu'il arrive. Bon, forcément, ils veulent gagner et enchaîner une 8e victoire à domicile consécutivement, ce qui est jamais arrivé. Enfin, si, ce qui est arrivé une fois. Donc, voilà, il y a des challenges et Clermont est prévenu, même si Clermont, en ce moment, sont plutôt pas trop mal à l'extérieur, ils sont invaincus depuis 4 matchs.
Justement, cette équipe clermontoise, équipe un petit peu difficile à cerner cette saison aux performances assez irrégulières.
Oui, mais qui après un démarrage un peu compliqué, bah voilà, 10e avec 19 points. On sent une équipe qui est capable de se maintenir sans trop galérer, parce qu'on est qu'à la 15e journée, 19 points. Donc t'es quasiment à la moitié du maintien avec ce nombre de points. Voilà, une équipe qui est assez joueuse. Pascal Gastien fait quand même de bonnes prestations avec ses équipes depuis plusieurs années. Et c'est pas anodin de voir Clermont se maintenir en Ligue 1. Donc il y a une volonté de jouer. Et c'est vrai que du côté de Lens, on s'en méfie parce que tout le monde se dit oui, bon allez, ça va être tranquille
dans la poche. Mais c'est vrai, voilà, c'est le genre de d'équipe qui peut, semblant de rien, poser des soucis. On verra, mais en tout cas, on aura une ambiance, ça c'est sûr, exceptionnelle. Et du côté de Lens, ben les comme on n'est pas loin de la Coupe du Monde, on va rappeler que Loïs Openda, l'attaquant belge qui ne devrait pas être titulaire ce soir, eh bien fait partie du groupe des Diables Rouges de Roberto Martinez. Hein, il est même pas réserviste, il sera donc vraiment dans le groupe. Il partira au Qatar, tout comme Frankowski. En revanche, pour Medina, l'Argentin, il y avait un espoir qui était mince, mais il avait été appelé plusieurs fois en sélection argentine, mais ça ne l'a pas fait, il n'a pas été retenu. Donc petite déception donc pour le défenseur central du RC Lens.
Elles étaient chères, les places dans le groupe argentin emmené par Scaloni pour accompagner Lionel Messi au Qatar. Je le disais, 17h, coup d'envoi de ce Racing Club de Lens Clermont du côté de Bollard, c'est l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Jean, est-ce qu'on a des infos sur les compos prévus par les deux entraîneurs? On rappelle, avant le début de la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a des changements opérés par les deux coachs?
Bah écoute, Openda devrait démarrer sur le banc, comme je vous le disais, parce que bah, ça, c'était le cas déjà lors des deux derniers matchs.
Ouais, il démarre régulièrement sur le banc.
Alors, début de saison, il était titulaire parce qu'il cartonnait tout simplement, il marquait. Puis, on a remarqué que quand il est rentré, il faisait très mal aux adversaires. Alors, ce qui n'était pas trop le cas à Angers la semaine dernière, c'est un peu compliqué, mais le match d'avant, il a tout simplement mis un triplé contre Toulouse en l'espace de quelques minutes. Donc, c'est vrai que là, c'est plus la préférence de Wesley Saïd qui fait des bonnes prestations. Pereira, Da Costa et Sotoka, donc pour l'attaque, hein. Sinon il n'y aura pas de surprise, hein. On va retrouver Brice Samba dans le but, Medina, Danso, Grady sur les côtés, Machado et Frankowski, qui va peut-être pas jouer toute la rencontre puisque lui il est appelé avec la sélection polonaise, et Seko Fofana avec Abdoul Samed. Voilà, donc vraiment, s'il n'y a pas eu de pépin de dernière minute ou un souci lors de l'échauffement, l'équipe de Lens devrait ressembler à celle-là. Et du côté de Clermont, on devrait avoir Diao donc dans le but, une défense à 3, hein, comme le Racing Club de Lens, avec Seydou, Vietesca, Coffrier, Bella côté droit, Rachani à gauche, Gonalon qui fait son retour, et puis normalement Gatien, Johan Gatien, le fils du coach Pascal, Cham et Kawi qui seront donc en soutien de Hendrick. Donc voilà, pour Clermont, ça devrait être normalement ce 11 de départ.
Je te retrouve dans un instant, Djibo, Jean Bobel, du côté de Félix Bollard, pour ce Lens Clermont, l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Juste le temps pour moi de vous rappeler que la 15e journée de Ligue 2, cette fois, a démarré il y a un petit peu moins d'un quart d'heure. Saint-Etienne tenu pour l'instant en échec, 0-0 sur sa pelouse de Geoffroy Guichard par Rodez. Saint-Etienne-Rodez, c'est le 19e face au 18e de Ligue 2. On retrouvera Edouard G, évidemment, pour suivre en direct cette rencontre dans quelques instants. Jean, je suis obligé tout de même de revenir sur quelque chose qui surprend. On connaissait le jeu, l'entrain, le dynamisme, la culture, hein, instaurée par Franck Hesse dans cette équipe lensoise. Ce qui surprend un petit peu cette saison, c'est la solidité des 100 heures. C'est très compliqué d'inscrire un but à cette équipe.
Bah, quand tu regardes les chiffres, c'est simple. C'est la meilleure défense du championnat avec le Paris Saint-Germain. 9 buts encaissés. L'année dernière, c'est vrai. Alors, ils sont peut-être un peu moins spectaculaires dans le jeu, mais au détriment, bien sûr, moins de spectacle, un petit peu moins de spectacle, un peu moins de buts, mais forcément une défense plus solide. Bon, déjà, t'as le gardien qui est Brice Samba, c'est quand même du très haut niveau. Hein. On murmurait éventuellement, les supporters militaient comme à l'époque pour Klose qu'il aille, peut-être comme numéro 3 en gardien avec l'équipe de France. Je pense qu'il n'est pas très loin. Hein, s'il continue comme ça, il aura peut-être un jour sa chance. Lui qui vient de Nottingham Forest, qui est monté d'ailleurs en première ligue. Hein, donc, sacré challenge de Lens de le faire venir ici dans le Nord. Et puis quand on voit des garçons comme Medina, c'est appelé régulièrement avec la sélection abyssaleste avec l'Argentine, Danso qui prend une dimension, qui est titulaire aussi avec l'équipe d'Autriche, et Jonathan Grady qui est tout simplement un garçon hyper fiable qui s'est révélé sur un tard, qui a eu un parcours un peu comme Jonathan Klose, hein, qui a un peu galéré en début de carrière, mais qui est irréprochable et très fort depuis un moment. D'ailleurs, même coach Courbis était surpris à l'époque parce qu'il l'avait connu quand il était à Caen. Et il était surpris que Grady signe à Lens en Ligue 2, alors qu'il disait à l'époque qu'il avait largement le niveau pour jouer en Ligue 1. Bah, il a patienté un petit peu, Jonathan Grady, mais je pense qu'il ne regrette pas son choix d'être resté à Lens, parce que là, franchement, il se régale.
Lens Clermont, l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Jean Baumel, Aurélien Tiercien, qui seront aux commentaires de cette rencontre tout à l'heure sur RMC. Merci beaucoup, Djibo.
À tout à l'heure.
Et à tout à l'heure sur l'antenne. Avant ça, ça a démarré en Ligue 2, la 15e journée également. Saint-Etienne, Rodez, à Geoffroy Guichard, Edouard G, où en est-on?
15 minutes de jeu, toujours pas de but, mais une grosse action de part et d'autre avec un centre de Després pour Marvin Senaya du côté donc de Rodez. Il a complètement manqué. manqué Marvin Senaya sa reprise alors qu'il était vraiment bien placé sur ce centre en retrait, un petit peu fuyant à l'entrée de la surface de réparation. Et puis derrière il y a eu un beau mouvement pour les Stéphanois avec Léo Petro, avec Mathieu Cafaro, avec l'appel de Wadji, et finalement c'est le gardien ruthénois qui a récupéré le ballon. Il y a eu une autre aussi tentative de Mathieu Cafaro, mais il a voulu y aller en dribble dans la surface de réparation alors qu'il y avait peut-être mieux à faire, c'est-à-dire que quand il était aux 18 mètres il n'y avait pas de défenseur qui lui venait dessus. Il aurait pu peut-être tenter sa chance, mais non, il a préféré essayer d'aller provoquer et finalement il a perdu son duel sur le coup. On va suivre cette touche pour les Stéphanois avec le centre de Mathieu Cafaro, trop fuyant, et du côté d'Ibrahima Wadji, on n'arrive pas à se saisir du ballon et on va pouvoir se dégager. 0-0, un gros quart d'heure de jouer ici dans une partie qui est vraiment très très équilibrée, qui pour l'instant est assez vivante puisqu'il y a des actions de part et d'autre. 0-0 donc, bientôt 17 minutes de jeu.
La Ligue 2, la Ligue 1, vous ne manquez rien comme d'habitude sur l'antenne de RMC. Ça se joue évidemment partout en Europe, dans tous les championnats, pour cette dernière journée de foot de club avant la trêve Coupe du Monde, en tout cas pour ce qui concerne les championnats domestiques. Sachez qu'en Angleterre, à moins de 10 minutes, 5 minutes presque de la fin du temps réglementaire, Manchester City est tenu en échec sur sa pelouse de l'Etihad, un but partout par la modeste équipe de Brentford. On vous donnera un point régulier sur les résultats marquants des autres championnats. Dans le Calcio, le Napoli, le leader, mène 1-0 face à l'Udinese après un gros quart d'heure de jeu. C'est Victor Osimhen, l'ancien Lillois, qui a ouvert la marque pour le Napoli. Je te rends la main quelques instants, Edouard, pour le live Saint-Etienne-Rodez en direct du Geoffroy Guichard. C'est l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2.
En espérant que ça va amener des buts, parce que pour l'instant, 17 minutes 30, aucune réalisation, aucun tir cadré, même s'il y a eu des opportunités de part et d'autre. Attention à la sortie un petit peu hasardeuse de Mathieu Dreyer en deux temps. En deux temps, il était sorti de sa surface de réparation. Il a dû y aller bien évidemment à la tête. Couper la trajectoire du ballon, c'était un petit peu fuyant, mais finalement il a réussi son duel. Ça va repartir avec Ibrahima Wadji dans la surface de réparation. Il s'excentre, un petit crochet derrière, il va la remettre à Benjamin Bouchouari à l'entrée de la surface de réparation. Le tir, et finalement ce tir est contré. Est-ce que ça va aller en corner? Non, du côté de Lionel Mpazi, on empêche le corner. Si, finalement il y aura un corner. 18 minutes de jeu, 0-0.
On revient dans un instant, Edouard, du côté de Saint-Etienne, mais avant ça, comme chaque samedi, votre rendez-vous qui ne manque pas de sel, c'est l'heure d'aller suivre le Quintet avec Fred Kita. Salut Fred.
Salut Simon, salut à tous.
On est du côté de Vincennes.
Nous sommes sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec Guinness Derfray, le numéro 1 qui est en tête pour aborder la dernière ligne droite, avec à ses côtés notamment le numéro 2 Gold Voice qui vient bien, le numéro 11 Grâce du Dijon, la favorite, qui est non loin de ce numéro 1. Guinness Derfray qui a toujours l'avantage, mais le numéro 11 Grâce du Dijon commence à l'attaquer, toujours le numéro 1 en tête, mais Grâce du Dijon, le numéro 11 qui va certainement prendre l'avantage aux abords du poteau. C'est le numéro 11 Grâce du Dijon, la favorite de cette épreuve, qui va s'imposer brillamment dans cette course. Le numéro 11, Grâce du Dijon, drivé par Eric Raffin, qui s'impose. Elle justifie son statut de favorite. On félicite aussi au passage son entraîneur Charles Dreux, que nous avons eu dans l'émission Les Courses RMC tout à l'heure. Elle s'impose donc devant le numéro 1 Guinness Derfray, qui a fait une très belle course également. Le 2 Gold Voice prend la 3e place. Ensuite la 4e position est pour le numéro 8 Gaïa d'Ocagne, et la 5e place, une arrivée assez serrée. On a plusieurs concurrents sur une même ligne. Je peux récapituler l'arrivée pour l'instant provisoire du Quintet. Le 11, la favorite, qui s'impose à 1,90€, devant l'As, ensuite le numéro 2, le 8 et le 4 pour l'arrivée provisoire du Quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
À 15h19 sur RMC, l'Intégral Sport, c'est parti pour du sport en live jusqu'à 23h non-stop sur l'antenne. Un petit détour par Geoffroy Guichard, Edouard G, le temps, le score entre Saint-Etienne et Rodez.
Bientôt 20 minutes de jeu, 0-0.
Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant, notamment pour suivre la fin de cette première période entre les Verts 19e et Rodez 18e. C'est l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2, dont vous ne manquez rien, comme d'habitude sur RMC. Vous ne bougez pas.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
15h23, vous êtes bien sûr à RMC, c'est la suite de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 16h avant de passer la balle à Flora Moussi pour la suite d'une immense après-midi et d'une soirée de sport en live sur RMC qui va nous conduire jusqu'à ce France-Afrique du Sud, le deuxième match de la tournée d'automne des Bleus du 15 de France. Ce sera à vivre évidemment en direct en intégralité sur RMC. Tiens, il y a d'autres rencontres internationales en ce moment. L'Italie qui mène encore de deux petits points, 17-15 à la maison face à des Australiens un petit peu en bout de piste, hein, qui étaient déjà, paraît-il, fatigués contre les Bleus la semaine dernière. L'Irlande qui mène 21-10 face aux Fidji. À 16h15, l'Angleterre défie le Japon. Le Pays de Galles reçoit l'Argentine. Et puis, je vous le disais, France-Afrique du Sud à partir de 21h. À 17h, la 15e journée de Ligue 1. Lens-Clermont du côté de Bollard. Ce sera avec Aurélien Tercin et Jean Baumel au commentaire. Dans un instant, on va parler de basket. Mais avant ça, petit tour à Geoffroy Guichard. La 15e journée de Ligue 2, c'est parti entre Saint-Etienne et Rodez. Édouard G, où en est-on ?
C'est parti depuis 24 minutes et 23 secondes pour être précis. Toujours pas de but, 0-0. Toujours pas de grosses occasions, justement, de part et d'autre. Les gardiens qui n'ont pas forcément été mis à l'épreuve. Seulement peut-être Lionel Mpazi, le gardien ruthénois, qui a eu à se coucher sur deux tirs, notamment un coup franc contré de Mathieu Cafaro, mais la prise de balle était assez facile pour le gardien de but visiteur du soir, avec un temps mort là pour le moment, puisqu'il y a un blessé mais qui va revenir, Clément Depré du côté de Rodez, avec un coup franc lointain du capitaine Rémi Boissier, très lointain, on est aux 40 mètres. Alors, est-ce qu'il va s'essayer directement, ou est-ce qu'il va essayer de trouver un partenaire à l'entrée de la surface de réparation? C'est la deuxième option, avec un ballon qui finalement va être dégagé par la défense stéphanoise. 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Égalité aussi au niveau des avertissements. Un avertissement de part et d'autre. Danger d'un côté et Nadé de l'autre, parce qu'il y a eu des tacles un petit peu appuyés justement dans ces deux cas. Et l'arbitre est venu donc mettre cet avertissement. 26 minutes de jeu, c'était assez vivant, assez intéressant sur les 20 premières minutes. Là, il y a un gros temps mort et on en reste donc à ce score de 0-0, Simon.
Avec une grosse ambiance, on l'entend derrière toi, Edouard, du côté de Geoffroy Guichard, Saint-Etienne. On le rappelle, 19e avant cette rencontre face à Rodez, qui le précède d'une place au classement. Saint-Etienne est évidemment cité parmi les favoris en début de saison à la remontée immédiate. Micro ouvert pour toi, Edouard, du côté de Geoffroy Guichard. Tu interviens dès qu'il se passe quelque chose entre les Verts et Rodez. Mais avant ça, vous le savez, c'est la promesse de RMC dans l'Intégrasport. On a les yeux partout et on se retourne sur ce qui faisait l'événement hier soir, et notamment cette victoire de l'équipe de France de basket. Plus qu'une, et elle sera qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde en août prochain. Les Bleus se sont imposés hier soir tranquillement face à la Lituanie. Succès 90-65 dans le sillage d'un petit novice, Victor Wembanyama, qui a été immense pour sa première avec la tunique tricolore. On va revenir quelques instants sur ce baptême plus que réussi avec Arnaud Valadon de la rédaction RMC Sport. Salut Arnaud.
Salut Simon, salut à tous.
Un de nos immenses spécialistes basket de la rédaction. Arnaud, on va finir par s'habituer avec lui, mais plus le jeune Français est attendu, plus il brille.
Il déçoit jamais.
Non, ça c'est
ce qu'on pourrait dire pour Victor Wembanyama, 18 ans, 2m21, 2m43 d'envergure, et il chausse du 55. C'est pour vous donner, ces mensurations absolument incroyables. Et pour sa première sortie en équipe de France, alors il n'est pas le plus jeune sélectionné de l'histoire de l'équipe de France, ça reste Hervé Dubuisson, qui avait été international à 16 ans et 9 fois, mais pour sa première sortie, 20 points, 9 rebonds en seulement 23 minutes. Il a été économisé parce que ça sert à rien de tirer sur la corde de Victor Wembanyama, qui a encore un physique à construire, et ça se fait cette année du côté des Metropolitans Levallois. Mais ça reste quand même le quatrième joueur français de l'histoire à signer plus de 20 points pour sa première. Il y a eu Robert Bunel, c'était en 1934, un des premiers grands noms de l'histoire du basket français, et le dernier c'était Apollo Faye au fin des années 70. Donc ouais, ça remonte quand même, une prestation que pas Tony Parker n'a fait par exemple pour sa première sélection. Il avait été sélectionné un peu plus jeune, mais il n'avait pas mis 20 points, et Nando De Colo lui avait mis 20 points à sa deuxième sortie.
Ah.
Et ça vous place quand même dans la hiérarchie de l'histoire de l'équipe de France qu'un jeune joueur fait pour sa première sortie. Donc oui, il a déjà été à la hauteur pour sa première cape en bleu.
D'autant qu'on a pu observer hier dans son jeu une sorte de maturité. Il n'a pas cherché à prendre des tirs compliqués, notamment en début de rencontre. Il a fait circuler le ballon et il a joué effectivement avec beaucoup de maturité. Alors Arnaud, c'est le phénomène, hein, on le disait, on fait semblant de le découvrir, mais ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on en parle. On sait qu'il jouera évidemment aux États-Unis, comprenons en NBA la saison prochaine. Est-ce que du coup l'équipe de France va rester importante pour lui au cœur de son projet. En gros, est-ce qu'il va continuer à jouer avec les Bleus régulièrement ?
Absolument. Déjà en jeune, il était présent. Il y a eu les U16, les U19 avec une médaille d'argent, une défaite contre les États-Unis en U19. Et il a vraiment cet amour du maillot. En plus, pour cette génération qui ont été touché par le Covid, c'est-à-dire que le Covid a annulé énormément de compétitions de jeunes et c'est très important d'évoluer chaque été dans des championnats d'Europe, des championnats du monde de catégories de jeunes. Et ben ça laisse un peu une trace parce que on n'a pas pu vivre cette aventure avec les copains. Tu te souviens de Tony Parker, Boris Dio, à Zadar en Croatie au début des années 2000. Voilà, c'est des histoires qui forment des générations. Ben, lui, avec on peut penser à Ousmane Dieng qui est déjà en NBA du côté du Thunder d'Oklahoma, il a envie d'écrire de grandes choses avec l'équipe de France et pas question de faire l'impasse. Il nous l'a confirmé avant ce match contre la Lituanie. Il veut jouer tous les étés avec l'équipe de France, à l'image d'un Luka Doncic avec la Slovénie, parce que parfois, tu sais, certaines franchises NBA disent oui, non, mais ça serait bien que tu restes à la maison pour t'entraîner. Victor Wembanyama, il a déjà, on sent déjà l'affluence qu'il va avoir pour dire non,
il est en position, prochain. Il est en position de force.
Ah, bah oui. Par rapport à tout ce qu'il représente, par rapport au fait qu'il peut changer le visage d'une franchise, il a déjà plus ou moins ce pouvoir avec son entourage et ses agents, à l'image d'un Rudy Gobert par exemple, qui va dire non, mais moi je décide de venir pour jouer avec l'équipe de France cet été. Bah, Wembanyama, s'il veut venir avec l'équipe de France, il ira, et c'est pas une franchise NBA malgré tout. Alors on parle souvent de l'institution, mais là c'est plus des jeux de pouvoir. Il pourra venir en équipe de France et il veut vraiment marquer de son empreinte cette équipe de France. Il y aura 2023 la Coupe du Monde, faut valider la qualification, mais ça va se faire. Et puis les Jeux Olympiques de Paris 2024, évidemment. Donc, tu as quand même deux grosses échéances qui arrivent.
Hein. Effectivement, on peut imaginer qu'il aura déjà de grosses responsabilités dans cette équipe à Paris 2024, même si, évidemment, les Batum, Décolo seront évidemment de la partie. Tu parlais de cette Coupe du Monde pour laquelle on dispute actuellement les qualifications. Prochain rendez-vous pour les Bleus, la Bosnie, ce sera dans un des temples du basket français.
Sauf pour les Limougeaux, on va dire oui, c'est à Pau.
Même les Limougeaux sont capables de le reconnaître, je l'espère.
Avec cette rivalité historique dans le basket français, oui, c'est à Pau contre la Bosnie. Alors c'est vrai que c'est des équipes totalement différentes par rapport aux champions d'Europe, parce qu'on avait perdu en Bosnie juste avant l'Eurobasket après prolongation. C'était presque un match de préparation, sauf que évidemment sans les joueurs de NBA ou d'Euroleague, ça change beaucoup. Il n'y aura pas Yusuf Nurkic qui est le pivot de Portland pour la Bosnie par exemple, ou Zlatan Musa, l'ailier du Real Madrid. Donc voilà, c'est des équipes remaniées de part et d'autre. Donc nous, on a un peu plus de vivier avec ces joueurs. On a vu hier un Sylvain Francisco qui est le meilleur marqueur de cette équipe de France. Mais oui, la première de Wembanyama en France, partout où il passe, c'est pratiquement du guichet fermé. À Levallois, il faisait même pas 1000 personnes, c'est guichet fermé sur guichet fermé. Tout le monde veut voir le phénomène parce qu'effectivement, c'est presque extraterrestre. C'est la première fois qu'on voit ça dans le basket français, un tel phénomène et qui domine déjà. Et puis pour ajouter sur 2023, tu as parlé de Batum, de Colo, Gobert et peut-être Joël Embiid. On est confiant du côté de l'équipe de France. Imagine cette équipe Embiid, Wembanyama, Gobert, Decolo, Batum, Evan Fournier, on n'oublie pas, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de très bons joueurs.
Joel Embiid, une des stars de la NBA, le pivot des Sixers de Philadelphie, de nationalité camerounaise qui pourrait choisir...
Camerounaise, américaine, voilà, française, ça, mais du côté de l'équipe de France, on se veut rassurant parce qu'il a obtenu la nationalité française, puis la nationalité américaine quelques semaines après. Et on dit que la nationalité américaine, c'est plus pour des facilités de voyage.
Fiscale ? Ah bon, non, ouais.
Non, quand t'as un passeport américain pour voyager aux États-Unis, c'est
effectivement
un peu
plus... Oui, en tout cas, pour les gens qui sont un peu au fait de la chose du basket, un Joel Embiid qui pourrait effectivement avoir sa place également dans la sélection américaine. Quand on connaît le réservoir américain, c'est dire la plus-value qu'apporterait un tel joueur, a fortiori à l'équipe de France. Merci beaucoup, mon cher Arnaud, d'avoir fait le détour par l'Intégral Sport. Rendez-vous donc pour les Bleus. Il reste une victoire avant de se qualifier pour la Coupe du Monde de basket.
Lundi
20h30. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Merci beaucoup Arnaud. On retourne à du côté de Geoffroy Guichard. Attendez, parce que j'ai vu Brentford qui s'impose dans le temps additionnel sur la pelouse de Manchester City. Ça alors, coup dur pour les hommes de Pep Guardiola. Brentford qui s'impose 2-1. Donc c'est l'ouverture de la 16e journée de Première Ligue dont vous suivrai en fil rouge évidemment les résultats sur l'antenne. Direction Geoffroy Guichard, je vous le disais, retrouver Edouard G, AS Saint-Etienne, Rodez, c'est l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2 chez nous.
Et pour l'instant, une ouverture qui ne fait pas de but, n'a pas de réalisation à son compteur. Toujours 0-0, peut-être avec cette action, avec Mathieu Cafaro qui va réussir à... Non, finalement, il avait réussi à armer son tir, mais immédiatement, il y a eu Rémi Boissier qui était venu, le capitaine de Rodez, pour récupérer, pour contrer plutôt ce ballon. Et derrière, un deuxième ballon qui revient par ce même Mathieu Cafaro, mais le centre est un petit peu à l'emporte-pièce, directement dans les bras du gardien de Rodez, avec deux actions, une de chaque côté. Toujours cette égalité, non seulement au niveau du score au tableau d'affichage 0-0, mais au niveau des actions, avec une opportunité pour Kylian Corredor, parti dans la dos de la défense stéphanoise, et derrière, eh bien, il a manqué son face-à-face avec Mathieu Dreyer, mais juste avant, c'était Mathieu Cafaro qui s'était essayé sur un coup franc, et là c'est allé directement dans les bras de Lionel Mpazi. Donc pour le moment 0-0, une partie assez équilibrée, et les gants des gardiens commencent un petit peu à se chauffer, mais pour des arrêts qui sont plutôt classiques et pas forcément difficiles. 0-0, 34 minutes de jeu.
Saint-Etienne 19e, on le rappelle, avant cette 15e journée de Ligue 2, face à Rodez 18e, un match qui vaut cher donc pour les deux équipes. La suite et la fin, une fois n'est pas coutume, de cette journée de Ligue 2, à suivre à partir de 19h dans l'intégrale foot Ligue 2 autour de Benoît Boutron. Pas de rencontre de clôture lundi soir. On clôture justement toutes les journées de championnat. Le foot de club qui va s'arrêter évidemment, Coupe du Monde au Qatar oblige. Dans un instant, on revient à Geoffroy Guichard. Le temps pour moi de vous rappeler que cet après-midi et cette soirée de sport en direct sur l'antenne va nous conduire jusqu'à ce qui est l'événement en France ce week-end, le deuxième test de la tournée d'automne du 15 de France, France-Afrique du Sud, côté du Vélodrome. Ce sera à suivre évidemment en intégralité sur RMC. D'autres matchs internationaux sont en cours. La surprise, elle vient du 15 d'Italie qui mène en seconde période 25 à 22, tiens, les Australiens qui réagissent, les Italiens qui sont toujours devant de 3 points face aux Wallabies, l'Irlande qui menait aux dernières nouvelles 21-10 face aux Fidji. Le score n'a a priori pas bougé. Angleterre-Japon à 16h15 et Pays de Galles-Argentine à partir de 18h30. Et puis la bonne nouvelle, elle est venue de l'autre chaudron, pas celui de Saint-Etienne mais du Portel, où Caroline Garcia, la numéro 1 française, récente vainqueur du Masters, a battu la néerlandaise Kerkhove, victoire en 2-7, le score 6-2, 6-3. La France maintenue dans l'élite de la Billie Jean King Cup. Vous l'avez vécu en direct et on se félicite de ce bon résultat pour les joueuses de Julien Bento. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant. On filera du côté de Geoffroy Guichard pour suivre en direct la fin de la première période entre Saint-Etienne et Rodez. C'est le début de la 15e journée de Ligue 2. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
15h39, vous êtes bien sûr RMC, la suite de l'Intégral Sport. RMC qui a les yeux et les oreilles partout où les compétitions se disputent. Dernier week-end de foot en club avant la trêve pour la Coupe du Monde. On filera à Geoffroy Guichard dans un instant retrouver Edouard G. Le temps pour moi de vous dire qu'effectivement, dernier match avant la Coupe du Monde, on a un œil évidemment un petit peu anxieux sur la situation de nos internationaux. 16e journée de Première Ligue. Ce sera bien avec Hugo Lloris dans le but des Spurs de Tottenham qui défie Leeds tout à l'heure. Évidemment, vous aurez le résultat qui vous sera donné évidemment sur l'antenne de RMC. Même chose pour le RB Leipzig qui pourra compter sur Nkunku sur la pelouse du Werder Brême, nos deux Français qui sont titulaires. On vous donnera évidemment régulièrement des nouvelles de la situation de nos Français pour ce qui est la dernière rencontre de club avant la Coupe du Monde. La France maintenue dans l'élite de la Billie Jean King Cup suite à la victoire de Caroline Garcia sur la néerlandaise Kerkhove. La France qui mène désormais 3-0, qui ne peut plus perdre ce match et qui remporte donc son barrage, victoire 6-2, 6-3 de la numéro 1 française. Comme promis, retour du côté de Geoffroy Guichard, c'est l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2, Saint-Etienne-Rodez. Edouard G, ça se tend un petit peu, notamment sur le banc des Verts.
Oui, c'est vrai que ça se tend et toujours 0-0 avec aussi des cartons. Le dernier en date, c'est Jean-Philippe Crasso. Comme ça fait égalité à deux partout. On aimerait bien avoir une égalité avec des buts ici, mais pour l'instant on n'en a pas. Alors il y a quand même des tentatives. On a eu un tir de Crasso tout à l'heure. On a eu Wadji aussi qui s'est échappé, mais il a vu monsieur l'arbitre sur le coup, plutôt Crasso, qui a fait une faute sur son adversaire alors que c'était peut-être plus plutôt au contact sur le coup. Peut-être, tiens, une nouvelle tentative pour Ibrahima Wadji, le Sénégalais, mais bien pris en tacle par Royao, le défenseur, qui va mettre cette balle en touche. Des Verts qui ont un petit peu plus d'idées sur cette fin de rencontre. Victor Lobry qui va essayer de retrouver justement Amri, qui va donner devant à Crasso. Peut-être une petite mimine à l'entrée de la surface de réparation, non dit l'arbitre, une mimine verte, et du coup ça va nous donner quand même un corner pour les Verts, qui sont un petit peu plus pressants sur cette fin de demi-temps, avec des actions au final pas très dangereuses, hein, je vous le dis, je me répète depuis le début de cette rencontre, mais ça se rapproche un petit peu pour les Verts. Et pourquoi pas sur ce corner à suivre pour Benjamin Bouchouari, qui va s'essayer justement à ce corner avec cette balle dégagée par la défense ruthénoise. Est-ce que ça va aller en corner? Non, il va y avoir même une faute de Michael Nadé. Ah non, mais non, l'arbitre dit qu'il va y avoir un corner. Ça va être un nouveau corner pour les Stéphanois dans cette fin de première période, alors qu'il reste 3 minutes. Et désormais, c'est Mathieu Cafaro qui va être de la gauche vers la droite pour ce corner, avec un ballon sûrement à la trajectoire rentrante. On voit Wadji, on voit Victor Lobry qui se place. Finalement, ce ballon qui voyage, une petite mimine. Non, il va y avoir une deuxième tentative pour Victor Lobry. Et Victor Lobry qui est presque sur le poteau de corner là-bas. Il est un petit peu tout seul. Il va essayer de se sortir des griffes de Rodez. Il n'y a pas de faute. Si, il y a une faute. Est-ce qu'il va y avoir un coup franc ou une touche pour les Verts? Ça va être un coup franc à hauteur des 16,50 m. Mais cette balle, elle est toute proche de la ligne de touche. Ça va être pour Victor Lobry, qui ne pouvait pas bien faire autre chose là, parce qu'il avait trois défenseurs sur lui. Il a protégé son ballon. Et au final, monsieur l'arbitre, en l'occurrence Pierre Lega, a signifié donc un coup franc. Pourquoi pas, une belle opportunité là pour les Verts, alors que l'on voit Michael Nadé qui est monté aux avant-postes, on voit Léo Petro aussi, on voit Benjamin Bouchouari, on voit Mathieu Cafaro, et c'est Victor Lobry donc qui va s'y coller sur ce coup franc, sorte de corner très très ouvert à hauteur des 16,50 m. Cette balle dans la surface de réparation et qui balaye tout le monde finalement. Ah ben non, ça va être c'est retouché par Rodez, et ça va être un nouveau coup franc, beau temps fort pour les Verts, mais à l'image de cette partie, parce qu'on a eu la même type d'action d'entrée de jeu, mais cette fois-ci c'était pour Rodez. Des séries de coups francs, de coups de pied arrêtés, coups francs ou corner qui ne sont pas au final dangereux. Est-ce que celui-ci de Mathieu Cafaro va l'être dangereux? On va suivre ça. Ben non, il va y avoir une nouvelle défense efficace de Rodez pour dégager ce ballon. Peut-être un deuxième ballon qui va revenir avec Louis Mouton là-bas, qui, non, finalement il va perdre le ballon. Si, il le conserve avec peut-être un centre à venir, avec Nadé qui est aux avant-postes, qui est resté aux avant-postes, Michael Nadé, Mathieu Cafaro qui va centrer, et ce balle, alors qu'il y avait Wadji et Crasso qui étaient sur la trajectoire, et qui est détourné par un défenseur ruthénois. 0-0 toujours. On va rentrer dans les deux dernières minutes et les esprits s'échauffent encore une fois, puisqu'il va y avoir un avertissement pour Clément Depré, cette fois-ci le joueur de Rodez. Ça fait 3 pour Rodez, 2 pour Saint-Etienne. Je ne vous parle pas des buts, je vous parle simplement des avertissements dans cette fin de rencontre plutôt stéphanoise, avec cette avalanche de coups de pied arrêtés, mais au final, vous l'avez compris, pas très dangereux pour Lionel Mpazi. Est-ce que cet énième coup franc, coup de pied arrêté, parce qu'on alterne entre coup franc et corner, Simon, tu l'as bien compris, est-ce que celui-ci, ce coup de pied arrêté, va être dangereux? Ben, on va voir ça, alors qu'on va rentrer dans vraiment la dernière seconde dans cette partie, avec donc Mathieu Cafaro qui va, non, c'est Victor Lobry là-bas, qui il prend un petit peu du temps. Voilà qui est fait, il fait un petit geste de la main, peut-être une petite tactique. Non, ce ballon, c'est directement, c'est imprécis, c'est directement dans les bras du gardien. Mon chronomètre, c'est terminé pour cette première minute, pour cette première période. Maintenant, c'était sans compter sur les 2 minutes de temps additionnel dans cette première période, assez vivante dans l'ensemble, mais au final avec des actions pas très dangereuses pour les gardiens, à l'image de ces coups de pied arrêtés qui sont mal tirés de part et d'autre, hein, parce qu'on a eu une série de 4 corners d'entrée pour les ruthénois. Ça n'a rien donné. Mathieu Dreyer n'a rien eu à faire parce qu'à chaque fois ce sont ses défenseurs qui ont dégagé. Et bien c'est un petit peu la même chose pour cette série de coups de pied arrêtés entre corner et coup franc pour Saint-Etienne. Tiens, en parlant de coup franc, devine Simon, il y en a un qui vient à l'instant parce que c'est un petit peu haché cette fin de première mi-temps avec Rémi Boissier, le capitaine de Rodez. Alors là on est loin hein, pour essayer un coup franc direct. On est aux 40 mètres et la ligne de défense demandée par Laurent Batless est à la hauteur des 25 mètres. Donc ça dessine un petit peu la difficulté de l'entreprise là pour faire quelque chose de très direct pour les joueurs de l'Aveyron. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire une tentative à deux. Rémi Boissier, non, finalement ça va être un autre tireur, cette fois-ci du gauche, et la tête derrière de Kylian Corridor. C'est largement au-dessus du cadre de Mathieu Dreyer. Plus que 60 secondes dans cette première mi-temps, vivante certes, mais pas très dangereuse au niveau des actions, avec des tirs un petit peu trop académiques, trop sur les gardiens quand ils étaient cadrés, parce que mine de rien il y en a quand même eu trois d'un côté et trois de l'autre, mais on n'a pas eu affaire à des grandes envolées de gardiens parce que les ballons étaient la plupart du temps sur eux. Allez, il reste 20 secondes à mon chronomètre. Ça va donner, devine, un nouveau coup franc pour les Ruthénois. C'est incroyable. C'est une fin de première période assez hachée. On voulait un petit peu de fluidité dans le jeu. On en a eu en début de partie, mais pas là sur ce temps additionnel. Ah bah tiens, ce coup franc, il en a peut-être marre, Pierre Grelat, l'arbitre, et finalement Pierre Legat, pardon. Et donc, il libère les 22 acteurs et on en termine donc sur ce score de 0-0, en espérant que ce ne soit pas le score final, parce que 0-0 avec une série de tirs au but au final, c'était le score il y a 15 jours, dans le 8e de finale de Coupe de France. On espère qu'il y aura des buts en deuxième période et que ce soit un petit peu plus précis, un petit peu plus vigousse, on va dire, pour les attaquants.
Avec des frappes un petit peu moins, on l'a retenu, académiques. Merci beaucoup Edouard, on te retrouve sur RMC dans un instant pour la seconde période de ce Saint-Etienne-Rodez, l'ouverture de la 15e journée de Ligue 2. Je vous confie au bon soin de Flora Moussi dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler les résultats. Le miracle, il est venu de l'Italie. L'Italie, le 15 d'Italie, qui a vaincu les Wallabies, le 15 d'Australie, l'Australie qui a marqué après la sirène mais qui n'a pas passé la transformation, le 15 d'Italie qui s'impose d'un point face à l'Australie. Dans l'autre rencontre, l'Irlande va battre les Fidji, un petit point sur le score, 28-17 à quelques secondes de la fin. La France maintenue dans l'élite de la Beijing King Cup, je vais y arriver. Caroline Garcia, la numéro 1 française, qui a battu la néerlandaise Kerkhove, victoire en 2-7, le score 6-2 à 6-3. Et puis des infos, le trio d'attaque du Paris Saint-Germain qui est retenu dans le groupe de Christophe Galtier pour la rencontre face à Auxerre. Demain, pas de Marquinhos, en revanche, laissé au repos avant la Coupe du Monde chez nos internationaux français. Hugo Lloris est titulaire avec Tottenham face à Leeds et Christopher Nkunku est titulaire avec le RB Leipzig sur la pelouse du Werder Brême. Voilà, pour être complet, il est temps pour moi de vous confier au bon soin de Flora Moussi que j'accueille avec plaisir. Salut Flora.
Salut Simon, salut à tous. Un beau programme qui nous attend aussi dans l'intégral sport jusqu'à 19h avec notamment évidemment la Ligue 1, le coup d'envoi à 17h de Lens Clermont. On va voir comment se sent le dauphin du PSG, très en forme en ce moment. Et puis on parlera évidemment de l'événement ce soir au stade Vélodrome. C'est pas de la Ligue 1, c'est du rugby avec le 15 de France qui reçoit l'Afrique du Sud. À tout de suite sur AMC.